J'aimerais rendre grâce au Seigneur pour vraiment toutes les bénédictions innombrables de cette semaine. Et ça me rappelle un chant qui dit « Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. » Et ce chant-là, j'ai souvent senti, mais combien je l'ai vécu cette semaine et je voudrais partager ça. Je me remercie, Seigneur, d'avoir mis à cœur à mon mari Jean de venir ici cette semaine. Il y a 5 ans que j'ai accepté le Seigneur, il y a 5 ans que je désire venir ici parce que M. Ferland, qui organise ce camp, est de notre assemblée et il m'invite toujours, comme tout le monde. Puis Jean, mon mari, était porté à dire, ben pour moi, des vacances, on prend un break, puis on se lève tard, puis c'est pas la cloche, puis le déjeuner, il y a 8 heures, puis tout ça, puis c'est peut-être pas non plus d'enseignement, tu sais, on a du fun, puis je respecte ça, puis j'ai à être soumise à mon mari, mais je priais pour ça, puis je me disais peut-être l'année prochaine. Mais cette année, là, j'ai vu que ça fait 4 ans qu'il me dit non, fait que j'ai même pas demandé, puis vous voyez comment le Seigneur est bon. À un moment donné, un dimanche, on vient de l'assemblée, puis il me dit, j'ai un secret, Diane, je nous ai inscrits à ce dans-là. J'ai dit, quoi? Oui, je nous ai inscrits, mais dis-le pas tout de suite aux enfants parce qu'ils vont s'énerver, puis tout ça, là, on leur dira à un moment donné, c'est quoi, là, que je me pince, j'en revenais pas, c'est la seule année où j'en avais pas parlé. Alors, ça nous prouve comment c'est important d'être patient. J'aimerais remercier le Seigneur énormément pour le travail qu'il a fait dans le cœur de Jean, mon mari, cette semaine. Et là, mais pas seulement par la parole de Dieu, mais par votre témoignage, comme Jean vous a dit hier soir, ça nous prouve comment c'est important de la lire, mais de ne pas être des auditeurs oublieux, puis de la mettre en pratique. Parce que je pense que si vous n'avez pas vivé chrétiennement, Jean s'est retourné chez nous à Moscou de la même façon qu'il était arrivé ici. Alors, vraiment, je rends gloire à Dieu pour votre témoignage. Je vous encourage à persister. Ensuite, j'aimerais remercier le Seigneur pour la très haute qualité de la nourriture spirituelle. Pour M. Racine, je sais, la Bible dit qu'il ne faut pas mettre notre gloire dans les hommes, mais justement pour M. Racine qui ne cesse de s'abaisser pour élever Jésus. Puis quand on voit un homme comme ça, on sait qu'on n'est pas avec Jim Jones qui ne nous arrivera rien parce que lui devient tout petit puis Jésus devient bien grand. Alors, c'est un homme précieux, puis il faut y faire attention. Quel exemple de vie que cet homme, qui se lève tôt le matin, se couche si tard le soir, et ne regarde jamais son confort, pour que chaque minute, chaque seconde de son existence soit employée au service du Seigneur. Quelle beauté, quel exemple de voir vivre et évoluer parmi nous une parole vivante. Je me sens une petite fourmi devant lui. Comment devrais-je alors me sentir devant Jésus, mon roi? J'ai été exhortée par Jean 4.11, pas mal exhortée par Jean 4.11, qui dit, « Ne parlez point mal les uns des autres frères. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. » Ça, là, ça a été comme une bonne tape en pleine face, assez forte. La veille que je pars pour le camp ici, j'ai été en contact avec une personne que j'aime beaucoup, une personne chrétienne qui m'a confié quelque chose d'assez intime parce qu'elle avait besoin de prière. Et puis, je suis partie pour ici un petit peu de croche, puis je pensais à elle, puis je me disais... elle a besoin de prière, puis tout ça, cette personne-là. Puis là, à un moment donné, au début de la semaine, j'ai jasé avec une autre sœur qui est très proche de moi, qui est ici cette semaine. Puis là, je me suis dit, si je lui raconte tout ça, mais pas pour placoter, mais si je lui raconte tout ça, elle va pouvoir prier. Puis c'était dans le but uniquement de la prière, puis mon cœur était sincère, puis tout ça. Mais j'ai pas réalisé qu'en lui racontant tout ça dans les détails, il fallait que je parle un petit peu en mal d'un autre frère qui faisait de la peine à cette sœur-là en question. Mais moi, blanc comme neige, là, c'était pour uniquement dans le but de la prière. Mais là, quand on a lu ça un certain matin cette semaine, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère, là, ça a été comme un éclair. Je pensais à ça, puis j'ai dit, ouf, comme on a lu aussi dans Jean, comme mon mari dit, le petit appareil, la langue, là, franchement, j'ai trop parlé. C'était pas correct. Puis ça prouve l'importance de lire la parole. Parce que ce verset-là, je le connaissais, puis en le lisant, là, ça a fait un feedback, là, puis ça m'a rappelé ce que j'avais dit, puis ça a été vraiment là, comme une bonne tape en pleine face. Ça m'a rappelé le psaume 119:11 qui dit « Je sers ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » C'est vrai que si on ne sert pas suffisamment la parole dans notre cœur, on fait des péchés sans en être conscient, parce que moi, quand j'ai confié ça à cette sœur, je faisais pas un péché, c'était bien fine, là. J'avais une personne de plus qui priait. Mais combien cette semaine j'ai réalisé qu'il fallait lire et méditer la parole vraiment dans un esprit de prière. J'aimerais rendre grâce pour une réponse à une prière et à un combat que je livre depuis le début de ma vie chrétienne. Ça fait 5 ans que je connais le Seigneur. Ça fait 5 ans que je vois l'importance de lire la parole. Mais Diane est bien paresseuse le matin. Ça fait 5 ans que j'ai la conviction qu'il faudrait que je me lève avant tout le monde et que je prenne une heure pour le Seigneur. Parce que je pense au Seigneur qui a dit à ses disciples, « N'avez-vous plus veillé une heure avec moi? » Puis je me dis, il y a 24 heures dans une journée, puis là, la journée commence, le déjeuner, si ça, le téléphone sonne, la porte, tout ça, puis je suis pas capable de réussir à trouver un temps de qualité pour lui donner une heure pour 24 heures. Mais je pense que l'idéal, c'est de se lever avant que toute la maisonnée soit levée, puis donner cette heure-là au Seigneur, puis la partager en temps de prière et lire la parole. Et comme je vous dis, ça fait 5 ans que je prie pour que le Seigneur m'aide à faire ça. Puis ça fait 5 ans que une fois de temps en temps, je me réveille matin à 6 heures qui sonne, puis je donne une claque, puis là, il y a un combat qui se fait à chaque fois. Puis là, le Seigneur, il pourvoit assez que je me réveille, la plupart du temps, avant le réveil matin, là, si je me dis que je vais me lever à 6 heures, à 6 heures pile, le Seigneur me réveille, puis je suis en forme, je suis pas fatiguée. Mais là, ce matin, il vient me dire à l'oreille, « T'as-tu calculé que t'as pas ton 8 heures? Tu vas être fatiguée à soir, Manoir, t'es bien mieux de rester couché. » Puis là, le combat est là, puis je me dis, oh, il a raison, hein. Puis là, à partir du moment où tu dis non, là, tu t'endors, là, puis t'es fait. Et puis, peut-être 3-4 jours avant le camp, là, je dis là, l'été commence. Je me rappelais l'été passé comment ça a été une année épouvantable, un été épouvantable, parce que les enfants se levaient tard, moi, je me levais tard, puis ça, là, ça sortait le dimanche, plein de poussière, là, puis je ne priais pas, puis je ne lisais pas, j'avais pas le temps. Puis là, peut-être à partir du milieu de la semaine, la semaine passée, en tout cas, je me levais de bonne heure, là, à 6 heures, puis je disais ma parole, puis je me recouchais aussi tard que d'habitude, pas fatiguée. Le Seigneur est tellement vivant que j'étais moins fatiguée que si je m'étais levée tard, puis tout ça. Puis il faut que je vous le partage, parce que ça fait 5 ans que je prie pour ça, puis Pierrette le sait, parce que Pierrette, elle est matinale naturelle. Puis, je lui dis toujours, comment tu fais, j'aimerais tellement ça. Puis là, je crie pas victoire pour tout le temps, parce que je suis très charnelle, puis que le combat continue, mais ça a été une grande joie pour moi, puis j'ai continué cette semaine, puis ça m'a permis de venir à la petite réunion de prière avec mes frères et sœurs, puis j'ai été tellement bénie par ça que si il y en a parmi vous qui combattent avec ça, je vous dis que ça vaut la peine, puis que le Seigneur, il pourvoit ce qu'on soit pas fatigué après ça, il nous bénit abondamment. Et puis, j'ai été beaucoup bénie aussi par les versets que Stella nous a donnés à ce sujet. Proverbe 20:13, « N'aime pas le sommeil de peur que tu ne deviennes pauvre. » Ça m'a fait du bien. « Le précieux trésor d'un homme, c'est l'activité. » Proverbe 12:27. « Celui qui se relâche dans son travail est le frère de celui qui détruit. » Proverbe 18:9. Je demandais à celle-là qu'elle me les copie parce que j'ai dit ça, là. Je vais coller ça sur mon réveil matin ou sur ma table de chevet. J'aurais un petit mot aussi pour M. Ferland et sa femme, qui travaillent si fort pour préparer ce camp-là. Et M. Ferland m'a dit à quelques reprises quelque chose qui m'a fait beaucoup de peine cette semaine. Puis, je comprends pas, là, j'ai même pas réagi, j'ai pas rien dit, comme si ce qu'il disait était juste. Parce que je sais que c'est un homme très sensible, puis qu'il y a beaucoup de peine, qu'il n'y a pas plus de gens de notre assemblée qui soient venus ici cette année. Puis là, il essayait d'analyser pourquoi, mais ça donne qu'il y a beaucoup de personnes de notre assemblée qui déménagent cette année. Il y a un boom de déménagement épouvantable. Mais là, il est torturé, puis il se dit, est-ce que c'est à cause des déménagements ou c'est à cause du vieux père qui sont allés le voir? Ça, le vieux père, c'est lui. Puis quand on sait, pour ceux qui le connaissent, que c'est un homme tellement charmant, puis qui se donne tellement, sans compter, puis qui a tellement le don d'organiser, le souci du détail, puis perfectionniste, puis ça, j'aimerais vraiment dire que moi, je suis convaincue que c'est pas à cause du père, mais que c'est... L'important, c'est pour que ce soit des gens de notre assemblée qui soient venus. Et que tous ces gens-là qui sont ici, quand on pense que quelqu'un est complet, quel que soit qu'il y ait une personne ou trente de notre assemblée, c'est que ce sont des gens qui sont venus ici parce qu'ils avaient besoin d'entendre la parole. Puis je pense que c'est ça qui est important. Puis là, vous allez pouvoir respirer. C'est ma dernière intervention. C'est pour Lisa et Bertrand. Évidemment. Qui se sont aussi tellement dépensés. Lisa, c'est une personne qui est tellement perfectionniste, puis qui ne regarde pas elle-même, puis qui est prête à tout faire. Ça fait deux ans qu'elle fait l'école du dimanche à mon garçon, puis je vois combien elle a de soucis du détail, puis tout est toujours parfait. Là. C'est vraiment le contraire de moi. Puis je vois comment elle travaille dans l'ombre, comme une petite fourmi, et Bertrand la même chose. Alors, je ne sais pas si vous seriez d'accord pour une main d'applaudissement pour M. et Mme Ferland, puis M. et Mme Marcel.
Alléluia.
Dans ma tête, c'était j'allais au Camanaïm, je me faisais baptiser. Donc, j'en ai parlé à ma mère spirituelle, elle était très contente. C'est elle qui a fait les démarches, qui a écrit à M. Racine. Puis au mois de mai, quand M. Racine est venu, on a appris qu'il n'y avait pas de Camanaïm, c'est lui qui m'a parlé du temps Cédarloch. Je dis, c'est correct, je disais. Il n'y aura pas de problème, je vais être là. Mais, du mois de mai, début mai, à venir jusqu'au 4 juillet, c'est long, deux mois, vous savez. Entre-temps, je me suis épontée. Peut-être que je devrais appeler M. Racine et lui demander d'y aller juste la journée que va me faire baptiser. Parce que peut-être que je ne serais pas capable, c'est long une semaine. Ah, puis il y avait plus de déni là-dedans. Vu que c'est un tempérament solitaire, elle joue avec les autres, mais elle revient toujours à maman. Puis je dis là, elle va peut-être coller une semaine sur moi. Ah, je suis bien trop long, je pourrais supporter ça une semaine. Fait que, moi, je suis bon aussi. Là, une chance qu'il n'avait pas votre numéro de téléphone. Une chance pour moi, par exemple. Parce que si j'avais appelé, j'aurais manqué tout ça. Je me serais prévu de grandes bénédictions. Pour ça, à un moment donné, certains savaient que je me faisais baptiser. Il voulait m'empêcher de venir au camp. On vous a parlé de la vigilance. Très important. Pour moi, je considérais à ce moment-là que c'était très important d'être vigilant. Puis oui, ce qui m'a donné la force de passer à travers, j'ai beaucoup eu l'importance pour moi, la lecture. Si vous vous sentez faible à un moment donné, lisez. Vous allez puiser votre force là-dedans. Il est bien dit dans Psaume 81, verset 8, j'ai crié dans la détresse et je t'ai délivré. Je me suis souvent posé la question. Vu que je suis seule présentement à Granby, je n'ai pas de famille, je suis une petite fille, tu n'avais pas le goût, tu n'avais jamais pensé retourner par chez toi? Vous savez,
Quand je suis arrivée à Granby, d'accord, ma famille, j'aurais bien aimé ça avoir quelqu'un avec qui parler à côté de moi. Mais maintenant, je me suis fait une nouvelle famille. Et je suis plus proche d'eux autres. Mes parents, je les aime encore. Ça s'enlèvera jamais l'amour pour mes parents, et mes frères, mes sœurs. Il n'empêche pas qu'après les émotions vécues cette semaine, ma famille, c'est vous autres. Quand je suis arrivée au camp, j'ai dit à M. Racine, j'étais en rentrant ici, j'ai senti la paix. C'était comme si cet endroit-là, le Seigneur dit, ici, c'est moi qui règne. C'est ma place à moi, c'est ceci qui ne plus. C'est que ici j'ai la paix, j'ai le bonheur, je suis heureuse, puis j'ai une famille. En premier lieu, j'ai mon père en haut. Qu'est-ce que je peux demander mieux? Rien. Et la seule chose que je demande, que cette paix-là, que ce bonheur soit pour chacun de vous. Peut-être qu'on va se revoir l'an prochain, si Dieu veut. Mais entre-temps, bon baiser à tous.
Aujourd'hui, je peux dire qu'il y a un cantique qui m'a mis à cœur de chanter. Puis justement, ça a rapport avec ce que notre ami vient de nous dire. Fait que, on passe le dire tout de suite. Le titre, c'est « Qui donc dans le ciel ?» Et semblable à toi. Et semblable à toi.
Racine de parler d'une personne là, que il a passé un archivore là. C'est moi. Et le Seigneur me met à cœur de raconter ce fait-là. Ça fait 2 ans. On fait 2 ans. Quand ma soeur a dit tantôt, là, j'ai crié à l'Éternel et il m'a délivré. Moi, je l'ai vécu. Aujourd'hui, je me rends compte que je vis sur du temps emprunté. C'était au mois de février, soit l'hiver dernier, l'autre hiver d'avant. Et je l'ai vécu parce que je lisais là-dedans. Ça fait peut-être 4-5 ans que je lis ça. Mais chose certaine, c'est pas perdu. Parce que si j'avais pas connu le Seigneur, il y a 2 ans, là, je serais pas ici. Parce que depuis 2 ans, là, c'est une nouvelle renaissance, parce que j'étais perdu. Un jour, je me suis retrouvé dans un studio. J'étais ouvrier agricole pour un gros cultivateur. Ça faisait ma 6e année. Et un mercredi, c'était une journée que j'oublierai jamais. J'étais en train de réparer un videur de studio. Ça, c'était une machine, ça, qui arche dans la filière pour descendre en bas. Puis je venais de finir de réparer. J'avais descendu ma soudeuse en bas avec des câbles. Puis c'était entendu que le propriétaire, il était pour venir partir ça avec moi pour soigner les animaux, tu vois. Puis vu qu'il tardait, j'ai décidé de partir la machine seule en haut. J'ai mis le courant en bas, j'ai monté, j'ai dit, il faut que je la parte. Mais la chose qui est arrivée, c'est que j'ai sorti tard de là. Comme j'ai parti ça, mon pantalon a pris dans la machine. C'est une machine qui tourne dans les tuyaux, ça, c'est un gros moteur. Mon bas de pantalon a pris après la machine, j'étais trop près. J'étais en train de l'ajuster, je venais de la réparer, j'étais en train de l'ajuster. Mon pantalon a pris après la machine. Puis, ça, c'est une machine, ça, que il n'y a rien pour arrêter ça. C'est une machine, ça, c'est pour arracher dans ses argiles, ça, c'est comme de la glace, c'est comme des popsicles. C'est une grosse machine avec des griffes. C'était au mois de février. Quand mon pantalon a pris le vin, j'ai vu que c'était assez. Et quand ma soeur a dit tantôt, là, j'ai crié vers l'Éternel, il m'a délivré. Je l'ai vécu. Il me rappelle, c'est comme si c'était hier. Quand mon pantalon vivrait ça, c'est drôle, mais chaque chrétien qui va vivre des choses de même, là, c'est instantané. J'ai dit, mon Dieu, lâche-moi. Je me rappelle la première pensée qui m'est venue quand je me suis vitré. J'ai dit, mon Dieu, lâche-moi pas. Ça m'a toujours resté. Quand ça a parti, cette affaire-là, je ne savais pas si qu'on vit. On voit la mort, on dit, il me reste combien de secondes, combien de minutes. Je me suis retrouvé là-dedans tout le temps. J'étais mon linge, j'avais le pied à la gorge. Tout mon linge, c'était en hiver, j'avais un gros manteau et une combinaison de travail. Je me suis retrouvé avec la barbe, j'étais étouffé, puis la machine tournait encore. Fait que là, j'ai commencé à parler à mon Seigneur. J'ai dit, je m'en vais te retrouver. Mais chose certaine, c'est que quand on est pris dans des situations de même, le Seigneur nous donne la paix parce qu'on ne panique pas. Et je peux vous dire une chose, c'est que si je n'avais pas connu le Seigneur, j'aurais paniqué et je ne serais pas ici aujourd'hui. C'est là qu'on voit que le Seigneur, il attend qu'on le laisse agir parce que quand la machine fonctionnait, J'ai tout abandonné, je savais que j'étais fini, c'était une question de minutes. C'est là qu'on voit que le Seigneur, il peut nous délivrer, qu'on n'a pas à s'inquiéter. Quand il nous parle de la foi, là, moi je l'ai vécu. Ça a fait à peu près ma jambe, il y avait un an de, je sais pas si il y en a qui connaissent ça, c'est des PTO, là. Ça a tourné sur ma jambe, puis je me sentais à tes jambes, ça rendait à l'os. Puis, ça serrait, ça tournait, puis moi, je t'ai appris là-dedans, je tournais. Mais ça faisait peut-être 15 minutes, la machine a arrêté de fonctionner tout seul. Fait que là, je me demandais comment ça se faisait que la machine arrête tout seul de même. Puis, je l'ai su rendu à l'hôpital, c'est quand que le propriétaire est venu me visiter. Il dit, je suis allé voir ça dans les studios, il dit, il y a une chose que je comprends pas. Les grosses courroies du moteur, il était à tomber à terre, dans l'ancienne. Ça, c'est une chose, là, que je n'en ai pas trop de risques là-dessus, parce que c'est la première fois que je vois ça. Le propriétaire n'en revenait pas. Quand il m'a dit ça, que les courroies du moteur étaient tombées sur l'ancienne, ou pour arrêter la machine, Là, j'ai compris que c'est le Seigneur qui avait mis pour moi à terre. Et si je suis aujourd'hui ici, là, c'est que, parce qu'il a bien voulu, quand il nous dit que la peur n'est pas arrivée, là, moi, je vais le vivre ici. Fait que, ça ne disant pas, tant que le Seigneur n'a pas décidé de vous voir là-haut, là, on n'a pas à s'inquiéter. Ça arrive n'importe quoi. Puis, c'est là que j'ai fait un pas de plus avec le Seigneur, parce que on apprend toujours avec notre Seigneur. Puis, je rends gloire ce soir encore, parce que ça a été une épreuve assez épuisante pour moi. Et quand j'ai sorti de l'hôpital, là, quand j'ai rentré, là, le médecin m'a mis sur une civière et on a dit, essayez tranquille, là. Mettez-y du sérum, on va attendre. Ça fait été exténué. Fait que là, ils ont dit, pour tout de suite, il n'y a rien à faire, là. On va attendre. Puis, la nuit après, là, la jambe était rendue grosse de rien. Fait que, il est venu me voir dans la nuit, puis il dit, il faut t'ouvrir la jambe. Il dit, la circulation est arrêtée. Il dit, tu vas perdre la jambe. Fait que là, il dit, au médecin, il dit, après ce que j'ai vécu aujourd'hui, là, je dis, tu t'ouvriras pas ma jambe. J'ai vécu une chose que j'ai vécu pour la première fois, puis j'ai dit, tu n'ouvriras pas la jambe, j'ai dit, tu reviendras demain matin, puis tu te descends à 20 du fouet. On peut prendre une chambre, mais il dit, il va y avoir des gardes à tous les 10 minutes qui vont venir prendre le pouls sur ton pied, là. Et si la circulation arrête trop longtemps, il dit, il faut que ça amène à la salle. Mais on en reparlera. Puis demain matin, là, on en reverra. Puis, ils ont passé la nuit, on m'a pogné le talon. Puis là, j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je ne suis pas pour rester à l'hôpital tout l'hiver, j'ai dit, je ne fais pas ma place. Fait que, le lendemain matin, quand le médecin a passé, ils ont dit que c'était pour laisser faire d'ouvrir la jambe, que le pouls n'était pas arrêté pour la circulation. Fait que j'ai dit, je le savais, j'ai dit, ça c'est un détail, ça, j'ai dit. Pour moi, c'est un détail, c'est le pouls, là, j'ai dit. Après ce que j'ai eu, là, jusqu'à date, là, j'ai dit, ça m'inquiète pas plus que ça. C'est bien pour vous dire qu'avec le Seigneur, il ne faut pas s'inquiéter. Quand on y remet le futur, là, c'est tout concours au bien de ceux qui aiment Dieu, puis je le vis de jour en jour. Que c'était une bénédiction pour moi parce que j'étais divorcé, ça faisait 4 ans. Et avec tous ces événements-là, la famille s'est réunie l'été dernier. Et je remercie le Seigneur pour les choses qu'il a faites. Amen.
Adolescents, les parents, les campeurs, si on voulait bien courber la tête, c'est pour une prière. Je vais vous la lire. Merci Seigneur pour avoir soutenu, aidé M. Racine à nous guider, à nous instruire, tant dans l'époque de Jacques que dans tous les autres entretiens qu'il a eu avec nous cette semaine et en privé avec certains. Merci Seigneur pour l'aide et ton support auprès des directeurs et des bénévoles de ce camp, à pouvoir diriger et avoir à la bonne marche du camp. Merci Seigneur d'avoir protégé tous les petits bouts de choux, les jeunes enfants, d'avoir pu ainsi permettre dans la mesure du possible aux parents de ces petits bouts de choux, de ces petits enfants, de prendre un peu de vacances, mais à la fois de prendre plusieurs moments de réflexion et de partage dans la parole. Merci Seigneur d'avoir guidé nos adolescents dans leur comportement. Ils sont des modèles pour tous les jeunes ainsi que les parents de ce camp. Merci Seigneur pour cette semaine, une semaine très spéciale pour plusieurs, sinon la majorité. Merci Seigneur. Amen.
Que le Seigneur nous bénisse parce qu'on avait un moment de silence maintenant. Ce qui m'a beaucoup touché au travers de l'épître de Jacques, c'est le thème de la patience. Et je repensais justement à Jacques qui avait été dans un pays où je crois qu'on doit encore plus apprendre la patience. C'est bien Israël, mais j'avoue que je n'ai pas encore appris complètement la patience. Et je pense que dans l'épître, ce que j'ai pu ressentir, c'est que ce thème de la patience est souvent réexpliqué. Là, je crois que c'est vraiment un moyen très très important pour que les différents fruits de l'esprit puissent vraiment mûrir dans nos cœurs. Et, bon, je n'ai pas noté le nombre de fois qu'il y a patience, mais je crois que pour moi, c'était déjà un mot-clé. Il y a eu d'autres mots-clés. C'était l'écoute. Là, j'ai vécu une petite expérience parce que j'avais une oreille qui était bouchée, alors j'ai pu me rendre compte que si on veut déjà essayer de réanimer ce fruit de l'esprit que l'écoute, il faut aussi y mettre de la volonté. Parce que du moment où on n'a qu'une oreille qui fonctionne, il faut vraiment dire c'est la volonté pour pouvoir écouter. Alors bon, je ne vais pas maintenant vous dire qu'il faut être prompt à parler, prompt à se mettre en colère et lent à écouter, mais je crois que vous avez retenu totalement l'inverse. C'est d'être prompt à écouter, lent à parler, ça m'est aussi un petit peu difficile, il y en a d'autres qui peuvent causer à ma place, c'est ça. Et puis, lent à me mettre en colère, et ça c'est aussi tout un thème très particulier, je crois que quelqu'un en a déjà parlé dans les témoignages cette semaine, mais ce verset-là qui dit bien justement que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, j'ai beaucoup aimé ce passage parce que ces derniers mois, souvent, on m'a revenu à cœur au travers de mes activités professionnelles. Je crois que je n'étais pas toujours prêt à ne pas me mettre en colère. Que ta douceur soit connue que les hommes. Mais c'est comme s'il me manquait quelque chose. Et ce complément que la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu, c'est quelque chose de plus que j'ai pu recevoir. Autrement, je crois qu'on a fait énormément les uns des autres. Et ce que je trouve extraordinaire dans ce partage de la famille de Dieu, c'est ces moments qui nous sont donnés où, là aussi, c'est plus tard, pas que sur ma profession, qui est la programmation, il faut tout organiser, tout planifier, tout structurer. Là, le Seigneur permet des rencontres, permet des partages, et permet surtout ce renouveau dans sa parole. Je vous remercie encore à tous, et puis je demande que le Seigneur vous bénisse tous.
Moi, cette semaine, j'ai été consolée. Ça fait 5 ans que je connais le Seigneur, puis on m'a montré dès le début de ma vie chrétienne qu'il fallait que je témoigne. Que l'occasion soit favorable ou pas, un enfant de Dieu se témoigne. Alors, on a dit tantôt que j'étais une personne très organisée. Alors, avant d'aller rencontrer des parents ou des amis qui ne connaissaient pas le Seigneur, je me faisais un petit scénario. Je me disais, ça va se passer comme ça, je vais leur dire ça, puis ils vont répondre ça, puis je vais témoigner. Puis ça se passait rarement, comme j'avais organisé. Puis, lorsqu'on venait, je me culpabilisais. Puis ça fait 5 ans que je me culpabilise à chaque fois qu'on voit des gens, si je ne peux pas témoigner. J'en suis même venue à culpabiliser Bertrand, parce qu'il ne témoignait pas lui-même aussi. Puis cette semaine, on a eu beaucoup d'enseignements. M. Racine nous disait,
que le témoignage est avant tout un témoignage de vie, que notre vie doit être comme un traité ouvert. Alors, je remercie M. Rochon pour ses renseignements. Pour ses enseignements, je remercie le Seigneur. Puis, demain, on retourne dans le monde. Je retourne avec la crainte de Dieu, mais une crainte positive. La crainte de le déplaire, mais c'est plus la crainte que j'avais avant, qui est une crainte négative. Avoir peur de ne pas témoigner. Alors, merci.
Ah oui, mes tout débuts de violon, je les ai faits avec André Monette au cours d'un camp. Il y a 6 ans, j'avais fait une semaine, puis après j'ai rencontré un vieux professeur en Israël qui m'a donné aussi un petit mois, puis après j'ai repris un peu à Los Angeles. Les cantiques sont Dieu est mon soleil, c'est le premier, le deuxième c'est Dieu est mon rocher.
Voilà, moi je voudrais partager beaucoup de choses, mais j'ai pas le don de raccourcir puis simplifier ça. Mais je vais essayer. Une chose en particulier qui m'a touché cette semaine. Eh bien, M. Racine a donné un exemple quand on était à l'extérieur sur des hommes de Dieu qui essayent de faire d'autres hommes de Dieu, vous savez, en tout cas des serviteurs ou des dirigeants ou n'importe quoi qui essayent de faire des hommes de Dieu. Eh bien, moi je suis chrétien simple qui a essayé des hommes de faire un homme de Dieu avec moi. Pourquoi? Voici. Au début de ma vie chrétienne, je ne dirai pas combien ça fait de temps parce que j'aurais peut-être honte. Je suis en retard dans mon travail avec le Seigneur, mais quand même. Au début de ma vie chrétienne, j'avais un certain talent que à l'église où ce que le Seigneur nous a conduit au début, mais il voulait faire de quoi avec moi parce que ça valait la peine. J'ai fait 10 ans de musique professionnelle, j'ai goûté à la gloire, j'ai goûté à le monde, tout ça, les applaudissements, surtout applaudissez pas après que je vais m'asseoir, s'il vous plaît, ça va pas m'aider. Et puis j'ai tout goûté ça. Et puis finalement, il y a un bonhomme qui me dit à moi un jour, il dit, tu sais, toi quelquefois, tu peux apporter ça à l'Assemblée. Ok, je raccourcis le speech, vous le connaissez. Finalement, il veut m'envoyer sur un cours spécial à Montréal, tout ça, dans la musique, puis tout. Alors moi, j'ai dit, je sais pas lire la musique. Tout ce que j'ai fait par oreille, je l'ai fait avec d'autres gens, et puis tout ça. Et puis, quand même, m'enverrer à Montréal, j'ai pas à cœur d'y aller à Montréal, j'ai pas à cœur de faire ci, faire ça. Alors, pour raccourcir mon histoire, ça va durer 2 mois. Pas des jours ou des semaines, mais ça a duré 10 mois. Me taquiner d'aller à Montréal, de faire ce fameux cours-là. Voici une parole qui m'a restée, mais qui vient d'un homme. Ça m'a beaucoup frappé. Un jour, au téléphone, j'étais dans mon studio, dans la cave chez nous, parce que j'avais vraiment un studio. Moi, je dormais les 2 pieds dans le tambour. Et puis là, je reçois l'appel, puis j'ai dit ce jour-là à ce bonhomme-là, qui était un pasteur, j'ai dit, mais écoutez, monsieur Intel, je vais y aller. Il était content, mon ami. Mais écoutez, je vais y aller pour vous faire plaisir. Et en même temps, pour vous montrer quelque chose. Savez-vous quoi? Vous montrer que vraiment, vous n'aviez pas raison. Mais je vais faire mon possible. Vous montrer que vous n'avez pas à faire, mais que vous m'avez tellement demandé et tellement persévéré tout ça que je vais y aller pour vous faire plaisir. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit qu'il était content. Je savais que tu dirais oui. C'est ça qu'il m'a répondu. Et ça m'a toujours resté. Et ça m'a frappé sérieusement. Oui. Je m'en vais là-bas à Montréal, sur le cours, j'ai pas rien appris. Je vous l'avoue, j'ai rien appris. J'ai rien appris du tout. Et tout ça, ça a continué comme ça. Mais moi, je cherchais le Seigneur plus ou moins. Vous savez pourquoi? Parce que le talent que j'avais, on essayait trop de le mettre en avant, de le mettre en pratique et de s'en servir pour m'amener au Seigneur. Même une évangéliste de cette assemblée-là est venue écouter un de nos concerts dans une polyvalente, dans un agora. Il est venu backstage, en arrière du stage. Et puis, il nous a félicité, c'était bien, puis il a dit qu'on avait beaucoup de talent. Vous savez, les concerts, pour faire crier les gens, c'est ça qu'on pratiquait. Et puis, il voyait quelque chose de tout à fait spécial. Eh bien, aujourd'hui, je crois qu'il y en a que ça peut venir comme ça peut-être. Je crois qu'il y a certains musiciens qui peuvent être appelés comme ça. Mais moi, c'était pas le cas. Alors, je vous ai raconté tout ça pour vous dire la suite. Voici. Il est écrit dans la parole, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Ne vous trompez pas vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir et son visage est naturel, et qui après s'être regardé s'en va, et oublie aussitôt comme il est. Eh bien, un jour, ça m'a frappé. J'ai dit, comment est-ce que je pourrais mettre la parole en pratique? Eh bien, regardez bien. Un peu plus loin, dans le chapitre 4 qu'on a étudié cette semaine, et c'est les paroles qui me touchent le plus, et que je veux rendre gloire à Dieu le plus, Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Alors voilà. Voilà la clé. Savez-vous pourquoi? Parce que moi, je viens d'une famille très orgueilleuse. Je suis un bonhomme très orgueilleux. Mais soit je voudrais dire, j'étais un bonhomme très orgueilleux. Parce que si je vous disais, je suis très, très orgueilleux comme je l'étais avant, mais le Seigneur n'a pas tout fait de travail en moi. Mais je suis encore orgueilleux, c'est sûr, parce que c'est un grand péché. Mais, j'étais tellement orgueilleux que j'en crois pas aujourd'hui. Je ne vais pas descendre ma famille, mais quand je visite ma famille, je me revois. Puis je dis, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire avec ça? Eh bien, je ne veux pas prendre la même méthode qu'on a pris avec moi aujourd'hui, mais je veux prier tout ça. Et je veux premièrement être un exemple, parce que plus loin c'est écrit, humiliez-vous devant le Seigneur, et il vous élèvera. Et c'est un autre verset qui m'a frappé profondément cette semaine, et c'est un verset que le Seigneur m'a donné en 86 et 87 jusqu'à maintenant, à mettre en pratique le plus que je pouvais. Non de moi-même, mais parce que le Seigneur a bien voulu le faire en moi, du moins c'est de la façon que je le crois. Vous savez, dans au sujet de l'humilité et tout ça, quand je me suis marié, on a approché deux chandelles avec une, parce qu'il y en avait deux qui brûlaient, c'était chacune de nos vies, et on a dit, l'homme quittera son père et sa mère, et s'attachera à sa femme pour devenir une seule chair. Ça fait 8 ans, le 21 de ce mois-ci, que je suis marié, je trouve ça merveilleux, je suis heureux, tout ça. Et puis, c'est qu'est-ce qu'on a fait? Moi, ma femme, on a allumé celle-là, qui devient une seule chair. Vous savez, c'est un symbole, hein? On a éteint les deux autres. Et voilà. Dans l'humilité dont je parle, ça aussi, ça touche. Mon désir dans le Seigneur, c'est de devenir vraiment une seule chair avec mon époux. Mais avant tout, il y a un verset qui m'a touché au début de l'année 1987. C'était une lettre qui était adressée à nous personnellement. Et ça venait de Matthieu, que vous connaissez très bien, il a parlé toute la semaine, c'est à moi maintenant. Il y avait un verset, et c'est un verset que je médite depuis le début de l'année, c'est « Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. » Et pour s'attacher au Seigneur, pour sentir la présence de Dieu, il faut vraiment s'abaisser, il faut s'humilier. Faut être dans l'humilité afin que le Seigneur nous élève la façon dont lui il veut le faire. Alors après toutes ces années, tout pour dire qu'il fallait réellement que je commence à zéro afin que le Seigneur fasse quelque chose avec moi. Et tous les talents que j'avais, tout le passé, j'ai essayé de faire quelque chose dans le Seigneur aussi. Non, c'était pas ça. Ça fait 3 ans que je fais plus de musique, mais ça fait 3 ans que je m'occupe sérieusement de ma famille et que les choses que Dieu voudrait que je fasse, le mieux que je peux les faire dans l'Assemblée, et je dois vous avouer que le Seigneur fait de grandes choses dans ma vie. Et voyez-vous, c'est là, dans l'humilité, que aussi le Seigneur approche moi et ma femme et mes enfants pour laisser un témoignage spécial pour devenir une seule chair. Je ne sais pas si vous suivez, mais je crois personnellement le plus profond de mon cœur, que là où on s'humilie, où on cherche à marcher comme le Seigneur l'a fait, en toute humilité, lui n'a pas cherché à s'élever. Et là, automatiquement, c'est lui qui va nous élever. Femmes, soyez soumises à vos maris. Mais Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église. Je vous l'ai dit que j'allais raccourcir le partage que j'avais à faire. Je ne vais pas prendre beaucoup de temps. Mais je devais dire tout cela parce que je veux rendre gloire à Dieu. On a appris beaucoup cette semaine. On a appris beaucoup. C'est un camp familial, et les camps familiales, c'est très enrichissant, très nourrissant. Je voulais vous lire quelques autres versets qui vont avec ça, qui dit « Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. » Il y a un Syrien dans un autre camp qui a dit « Vous savez, quand on a soif, il y a une source qui coule, il faut s'approcher pour boire. Et si on ne s'approche pas, rien. On va toujours avoir soif. » Alors, ça m'a toujours touché que ce bonhomme-là a dit. Et un jour, on partageait, il a dit aussi, tu sais, les enfants, la famille, ça veut leur parler à l'autre. Ça me touche, moi, ces choses-là. Et puis, il dit, tu sais, les petits-enfants, tout. Il dit, chez vous, c'est beau, hein, c'est beau. Hein. Puis, il y avait des enfants, tu sais. Et puis, le bonhomme a dit, gardez cela. Gardez la famille. Gardez chez vous. Priez ensemble. Chantez ensemble à la maison. Tout ça. Il m'a tout expliqué ça, puis j'ai trouvé ça très bon. Parce que vous êtes une petite église. Il a dit, toutes les familles comme ça, c'est une petite église qui s'en vient à l'Assemblée, et c'est ça qui fait vraiment l'Église, la cause de Christ. C'est vrai, j'y crois profondément. Ça m'a édifié, ces paroles-là. Je voulais ajouter un autre verset pour terminer. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons, et nous ferons ceci ou cela. C'est un verset qui m'a toujours frappé depuis le moment que je l'ai lu. Bien passant, mais l'épître de Jacques, c'est la mienne. Le Seigneur a choisi. Non, mais c'est pas juste pour le nom, c'est la mienne pour vrai. Ça m'a beaucoup parlé, cet épître-là. Vous devriez dire au contraire, si Dieu le veut, nous vivrons et nous ferons ceci ou cela. Eh bien, voilà des frères et des sœurs et nous-mêmes qui planifient des grandes choses. Et à un moment donné, ils viennent et on partage comme ça. Puis on dit souvent, hein, « Ah ben, le Seigneur nous a montré cela. Le Seigneur nous a montré ça. On va faire ça. On va aller, on va faire ça. » On a partagé avec des frères, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu, juste deux jours avant de venir au camp. Et puis, on a discuté un peu là-dessus. Et puis, le Seigneur m'a dirigé là, et c'est comme ci, et c'est comme ça, et tout ça, et gloire à Dieu. C'est pas dur à dire ça. C'est facile de dire que le Seigneur, c'est lui qui l'a voulu, et c'est pour ça que je suis là, tout ça. Eh bien, gloire à Dieu si c'est vraiment ça, puis si on le ressent profondément, puis si on le met devant Dieu, puis si on s'est préparé, comme le serviteur l'a dit cette semaine, vraiment préparé devant Dieu à faire ces choses-là. Mais si c'est le contraire qui se passe, eh bien, voilà comment le verset m'a touché. Si c'est le contraire de ce que nous avons planifié, si c'est le contraire de ce qu'on désire vraiment, dans tout ce qu'on n'a dit que le Seigneur a fait, etc., etc. Si je pense le contraire, comment est-ce qu'on agit? Eh bien, le Seigneur m'a parlé. Est-ce que je suis prêt à dire, ben Seigneur, que ta volonté se fasse? Et accepter si c'est le contraire ou si ça se passe autrement. Parce qu'il y a d'autres versets qui m'ont touché, parce que Jésus a dit ses manées, a dit, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et souvent, on a besoin de méditer ce verset-là. Comme notre Sauveur bien-aimé, notre modèle, a fait, non pas ce que je veux, Seigneur, mais ce que tu veux. Parce que le Seigneur, il peut vouloir nous faire de grandes, grandes choses, il peut nous faire passer par de grandes, grandes choses pour faire toutes sortes de choses, mais est-ce qu'on est prêt à le faire? Même si ça fait pas tout à fait notre affaire. C'est à peu près ça que je voulais vous partager. En tout cas, j'ai essayé de la raccourcir le mieux que je peux. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu en route. Mais je suis sûr que vous avez compris quelque chose et retiré quelque chose. Je rends gloire à Dieu pour ce temps et qu'il nous bénisse chacun de nous. Au retour à la maison et surtout qu'on puisse mettre en pratique ce qu'on a appris. Amen.
Bonsoir à chacun, particulièrement à nos invités. Moi, je vais vous dire, ici, toute la semaine, je ne me suis jamais levée pour témoigner. J'en ai trop à dire et la petite bébite qu'on a dans la bouche, elle fait trop. Alors, d'après une soirée, quand une semaine d'abord, une soirée comme on vient d'avoir, ça fait déjà quelque temps que j'ai l'avantage, la grâce de Dieu, d'appartenir à cette famille du Seigneur et que je désire donc que ça soit lié. Et là, pour moi, personnellement, je m'en occupe, je trouve qu'il y a un grand progrès que fait depuis ces dernières années. Et je dis ici le Seigneur, j'ai la crainte de l'Éternel depuis le début, mais j'ai peur de rien de plus en plus j'ai reçu des enseignements qui me viennent de serviteurs que vous connaissez, que Dieu a mis sur ma route et que nous avons l'avantage d'avoir ici au Canada, quand je ne sais pas son vieux du tout. Et moi, ça m'est une merveille. Et déjà, je me suis accusée à lui que il ne peut pas parler de lui, moi je parlais pareil. Mais je m'en suis accusée, ça m'est tout seul, puis je ça faut dire. Il faut dire ce qu'on ressent aussi. Et il faut dire que quand il y a une valeur sur la terre, on doit courir pour l'écouter, pour l'entendre. Et c'est comme Jacques va dire, ceux qui ont témoigné ici, je trouve qu'ils ont des talents extraordinaires. Et c'est certain que l'Église, le Seigneur d'abord revient bientôt, mais son Église va paraître plus qu'elle paraît présentement. Et des numéros comme lui, là, il a peur de tout, leur de Dieu. Ça fait longtemps que son ordre est parti, on voit son talent. On peut passer. Remercier le Seigneur de nous avoir choisi toute la semaine, les petits-enfants, là. On reconnaît, je l'ai dit justement, sa femme, un petit peu. Et je pensais pas parler du tout, mais depuis quelques minutes, je me demande si je dois aller ou pas. Si je dis, en tout cas, Jésus, c'est toi qui m'habites, je suis une terre, puis faut pas que je sois là. Faut pas que, si c'est mieux que j'aille, je vais aller, puis là, je me suis dit d'emblée. Et je suis venue vous dire, moi, que toute la semaine, dans l'équipe de Jacques, j'ai vu mes défauts, en blanc, puis en noir, tout ce que vous voulez. Et par la grâce de Dieu, la force de l'esprit, je le mettrai certainement en pratique. Comme vous voyez, je suis pas jeune. Et le Seigneur m'a dit, ton âge de nous, veut dire que t'es satisfaite à date pour le peu de temps que tu me connais. Je le connaissais, je le priais Dieu avant. On pensait qu'on me connaissait. Moi, toi, personnellement, je ne le connaissais pas. Et depuis que j'ai compris, ça fera 10 ans le mois prochain. Et de plus en plus, imaginez pas que je n'ai pas de trouble, que j'ai le plein bonheur. Mes deux dames de mon âge qui m'entourent me disent, c'est pas possible, ça. Vous êtes capable des autres, parce que ça se peut pas. Parce que j'ai pas d'enfant, des petits-enfants. Une belle fille, personne n'est au Seigneur. Et ça me déçoit, mais est-ce que c'est mes affaires? Est-ce que c'est moi qui présente mon Seigneur? Peut-être, par la façon que je vais vivre, si je vais agir pleinement, mais moi, j'ai retiré ma fête. M'amener au Seigneur. Dernièrement, j'ai bien annoncé chez lui, que ça, c'est la vie que vous voudrez. Moi, j'ai changé de ma vie, mon optique. J'avais déjà 60 ans. Ça fait 7-8 ans avant que je connaisse des chrétiens. Je connaissais personne. Je connaissais des mondiaux. Alors, je restais dans mon petit coin. Je disais, tu as bon Dieu, tu vas faire avec moi. J'ai été éduqué de toute façon. Et j'ai éduqué mes enfants. Mon fils est venu m'a dit, quand je suis venu au Seigneur, il m'a dit, vous n'avez pas éduqué comme ça. Par la grâce de Dieu, je lui ai répondu dans lui, mais vous pensez que je ne sais pas. Mais il n'est jamais venu, je lui ai offert, il n'y a jamais. C'est pas l'œuvre du Seigneur. Il me donne la patience d'attendre, et je dis, ça déçoit ceux qui me connaissent et ceux qui connaissent un peu ma vie, parce qu'il dit, ça se peut pas qu'on soit. Il dit, c'est pas moi qui le fais, moi je pourrais pas le faire, mais c'est pas moi. Puis j'ai dit, ça s'explique pas. Prenez comme c'est, et si vous voulez lire la parole, vous aurez ce que vous pensez que j'ai, que vous ne voulez pas comprendre. C'est en lisant la parole, c'est la lumière vient, mais j'ai dit, il faut donner le temps, et comme M. Georges disait, la patience, je ne l'avais pas, mais là, avec la grâce de Dieu, j'avance, et je suis très heureuse d'être parmi vous, d'avoir été cette semaine partagée où Dieu nous a comblés, surtout à part nourriture spirituelle, nourriture corporelle, d'association d'idées, de fraternité. Nous avons eu un baptême extraordinaire aussi. Et je m'unis à vous tous pour demander au Seigneur que le son serviteur qui est ici parmi nous, il nous le garde longtemps, non seulement pour nous, il ne faut pas être drôle, il partage, il sait ce qu'il y a à faire. Et c'est pas lui, il sait, c'est le Seigneur, puis il nous dit assez qu'on le comprend, on voit ça. Alors, très heureuse, je vous garde tous dans mon cœur, et je remercie le ciel d'avoir pu partager cette semaine à la grâce de Dieu. Amen.
là, le deuxième chant qu'on aimerait vous apporter, c'est un chant qui reflète un peu ce qu'on a vécu. Parce qu'ici, il y a des gens de tout âge, des enfants de 0 à 3 ans, des enfants un petit peu plus vieux, d'autres un petit peu encore plus vieux. Il y a des adolescents qui sont plus vieux, célibataires. Il y a des plus vieux qui sont mariés, il y en a encore qui sont rendus grand-père, grand-mère. Fait que c'est un peu ça qu'on a voulu refléter, que dans toute cette diversité de gens, on a pu apprendre à les jouer ensemble dans le Seigneur.
De parler en public, excusez mon trac, tout là. Mais j'ai essayé de concentrer que ce soit le Seigneur qui vous raconte ce qui s'est passé sur mon côté. Là, vous avez le côté de Paul, maintenant le mien. Qu'est-ce que je faisais, moi, dans mon coin? J'étais 4 ans divorcée, comme Paul André dit. Mais je n'étais pas satisfaite de ce divorce-là. Je savais que j'avais manqué de bateau quelque part, tu sais. Je regardais mes enfants, mes beaux enfants, parce que j'ai la chance d'avoir 3 beaux enfants. Et puis, je regardais grandir, pas mal loin de les faire. Je disais, c'est pas correct. C'est pas correct, Seigneur, parce que je prétendais avoir la foi. J'étais catholique, j'étais. C'est chrétienne pour moi. Mais c'était faux, ça. Je me sentais fausse. Parce que ne rendait pas vraiment mes enfants heureux. Alors j'ai prié, un soir je me souviens, que j'ai prié très fort. Seigneur, fais quelque chose pour moi, fais quelque chose dans ma vie qui va changer ma vie. Je vois que ma vie s'en va là, ça n'a pas de bon sens comme ça. Alors, un certain mercredi, le mercredi de l'accident, le 12 février, il s'est passé quelque chose dans la maison, entre mon fils et moi. Mon fils m'a déclaré, au moment où, c'est étrange, mais c'est pas vraiment étrange, hein, parce que c'est du Seigneur, toutes ces choses-là. Mon mari était pris dans le tuyau, mais mon fils me disait, à ce moment-là, depuis 4 ans, maman, je ne prends pas le divorce. Je suis pas content d'être d'un foyer de divorcé. C'était le début, la réponse que le Seigneur il préparait mon cœur à bien des choses parce qu'il y avait un autre homme dans ma vie, il n'était pas question. Je l'aime plus mon mari. Hein? Comment ça qu'on dit ça? Je l'aime plus mon mari. Tu sais, on ne peut pas dire ça. Ça ne se peut pas parce qu'on était mariés devant Dieu. Il y a 2 ans qu'on était mariés devant Dieu. Puis comme le monsieur a dit tantôt, hein, 2 flammes, comme une flamme. Dans des grandes épreuves comme on découvre que c'est ça qui arrive. La flamme, c'est pas pour lui que de faire cette flamme. Hein? Ça se fait pas, c'est un. J'ai compris 2 jours après, le soir que j'ai su, en revenant de mon travail, ma fille Caroline est dans le salon, ce matin, elle est blanche. Ça, moi, je suis rose, là. Mais elle est blanche. Comme un cadavre, elle me dit, papa a eu un accident. Papa, les 2 jambes écrasées, parce que les nouvelles avaient été un peu enterrées. Mais disons que ça me donnait un coup, un choc. Ce soir-là, j'ai revécu. J'ai revécu notre vie commune à moi et Paul. Tous les bons moments qu'on avait eu ensemble. Pourtant, je l'aimais plus, c'était plus. Il n'était plus mon mari. Mais le soir que j'ai su qu'il y avait eu un accident, ça m'a ouvert les yeux. J'ai compris, Seigneur m'a fait comprendre que j'aimais mon mari, puis que c'est le père de mes enfants, puis que je me devais de retourner avec lui. Mais c'est sûr, ça ne pouvait pas se faire du jour au lendemain, il y avait tellement eu de plaisir, de couper. Mais là, le Seigneur a parlé à travers mes enfants. Même la petite Josée, elle disait, moi ça ne se fait pas, maman, veux-tu retourner avec papa? Tu es obligé, là. La vérité, j'ai dit, tu n'es pas capable, tu n'aurais pas ça. Mais c'est pas ça, c'est secondaire pour moi, ça, l'Église, c'est ma relation avec Dieu, de me sentir en paix avec moi, de me sentir à ma place. Et puis, depuis le retour avec Paul, ça a pris plusieurs efforts, chacun de notre côté, il y a eu pas mal de choses à régler. Mais maintenant, ça va très bien, puis ça va aller mieux encore. C'est sûr qu'il y a des moments encore difficiles. Hein, si on avait été au divorce, hein, il y avait vraiment des conflits. Mais en fait, maintenant, dans le foyer, c'est Dieu qui règne. C'est Dieu qui va nous garder ensemble maintenant. Toute la famille unie, puis on donne à nos enfants l'exemple que le mariage, c'est indissoluble. J'espère que les grandes filles on parle même gaffe que le mari. C'est tout ce que je demande au Seigneur. Amen.
Je vais vous raconter tout ce que le Seigneur a fait pour nous depuis un an, depuis les derniers camps, car il a fait pour nous des grandes choses. Ni de résumer l'enseignement qu'on a reçu cette semaine, mais je vais vous raconter une petite histoire que Louise m'a racontée. Je n'étais pas là cet après-midi. Louise a un cahier pour prendre des notes avec une reliure en spirale. Avec une broche en spirale au bout. Comprenez-vous ce que je veux dire? Puis elle a demandé à Sarah de lui passer ça dans la cabine chez nous. Sarah est arrivée un peu vite, comme elle a tendance à faire. Et elle a accroché le bout qui dépasse entre la paupière et l'œil. Puis Louise voyait le bout de la broche qui faisait comme une bosse en dessous de la paupière. Elle a sorti, puis la petite a fait rien. J'aime pas ça quand on voit des miracles, là, il n'y en a pas. Mais ça me porte quand même à dire, quand les gens prient, et remercie le Seigneur pour d'avoir protégé nos enfants, ça me porte à dire Amen. Amen. Amen.
Bien aimé, je ne pensais pas ouvrir la bouche ce soir puisque il était bien entendu que c'était la rencontre où vous aviez la parole et où vous pouviez vraiment apporter votre témoignage. Et je remercie Dieu de ce que plusieurs l'ont fait et je demande au Seigneur que d'autres puissent le faire spontanément à l'heure de Dieu. Pour résumer ce que nous avons vécu ensemble, je vous dirai très simplement cette parole qui se trouve au psaume 133. Et je pense que vous pourrez dire que nous avons connu cela. Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que le Seigneur a commandé la vie et la bénédiction pour l'éternité. Nous venons de passer une semaine dans la communion fraternelle, réalisant ce que les premiers disciples, après la Pentecôte, ont connu. Ils avaient tout en commun, ils étaient ensemble, et il a dit qu'ils prenaient chaque jour leur nourriture avec joie. Ça a été le cas pour nous, qu'il s'agisse de la nourriture spirituelle ou de la nourriture matérielle. Et puis, nous avons éprouvé aussi qu'il y a eu de l'huile, l'huile précieuse qui est l'onction du Seigneur, l'onction du Saint-Esprit, qui avec sa douceur a pu se poser sur chacun de nous, parce que l'Esprit de Dieu voudrait nous faire du bien à tous. Et vous savez ce qu'il verse dans nos cœurs, l'Esprit de Dieu, cette huile sainte, c'est l'amour. L'amour de Dieu est versé dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Eh bien, nous avons été sous l'onction du Saint-Esprit et l'onction du Saint-Esprit descend non pas seulement de notre tête et sur notre barbe, sinon nous l'avons pas, peu importe, elle descend jusque sur le bord de nos vêtements. C'est une marche dans l'esprit que nous désirons connaître maintenant. Des pensées selon l'esprit, des paroles selon l'esprit, des actions selon l'esprit et une marche selon l'esprit. Et si vous marchez selon l'esprit, vous n'accomplirez pas les convoitises de la chair. Ce n'est pas vous qui conduirez votre vie, c'est le Saint-Esprit. Alors finis cette lutte, finis la crainte, c'est la paix qui est en vous. Et puis, nous avons lu aussi que c'était comme la rosée de l'Hermon. Je veux croire que malgré la fatigue que de longues journées peuvent apporter, et aussi la chaleur qui nous a été accordée, eh bien, je veux croire que vous aurez connu aussi cette rosée, ce rafraîchissement que nous donne la parole de Dieu quand on commence à la savourer. Elle nous rafraîchit. Elle est vraiment une eau qui désaltère. Et voilà, vous vous dites, eh bien voilà, maintenant, nous allons nous quitter après avoir connu dans ce lieu la vie et la bénédiction. Oui, vous l'avez connu. Il y avait la vie et il y avait la bénédiction, mais c'était pour quand? Pour les journées du camp, qu'avons-nous dit? Pour l'éternité. C'est là que le Seigneur a commandé la vie et la bénédiction pour l'éternité. Vous repartez avec cette vie et avec cette bénédiction, mais pour l'éternité. Ce ne sera pas quelque chose de passager. Nous n'avons pas essayé de flatter vos sentiments, vos émotions. Nous avons essayé de vous donner la parole de Dieu et maintenant c'est là notre paix. Et quant à ceux qui vont nous quitter et voyager toute la nuit, nous leur rappelons le psaume des voyageurs. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Paul André nous a montré d'où était venu le secours qui permet qu'une courroie saute, tombe d'une façon miraculeuse, parce que ce n'était pas son heure, parce que le Seigneur voulait réunir un foyer, parce que le Seigneur voulait rassembler les enfants et les parents. Il est capable de le faire et vous en avez eu le témoignage. Et ma joie, c'est de sentir que pour ses enfants, je suis aussi comme un peu un grand-père. Et cela me donne beaucoup de bonheur, de voir le bonheur des enfants dans un couple réuni. Et je bénis le Seigneur d'avoir permis à nos bien-aimés d'être parmi nous. Et c'est eux qui vont encore m'enlever. Et j'en rends grâce au Seigneur. Le secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle. Est-ce que vous le croyez? Il ne permettra point que ton pied chancelle. Celui qui te garde ne sommeillera point. Vous devez conduire dans la nuit et vous ne sommeillerez point. Ça me rappelle ce que le conducteur d'autobus de Québec, dans une journée de tempête de cet hiver, quand les routes étaient bloquées et qu'il était minuit, et qu'il est parti quand même de Québec à ses risques et périls avec ceux qui voulaient risquer les périls avec lui, quand on est arrivé à 4h du matin à Montréal, alors que plusieurs routes, les camions étaient sur le bord de la route, et qu'on lui a demandé comment il avait pu conduire ainsi, vous savez ce qu'il a dit? Mais j'ai dormi tout dur. Qui est-ce qui avait conduit? C'était notre Seigneur, parce qu'il savait que nous devions être là. Le Seigneur est capable de vous conduire et de vous garder. Il ne sommeille pas et il ne se fatigue pas. Il est celui qui vous garde. L'Éternel est celui qui te garde. L'Éternel est ton ombre à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal, il gardera ton âme, l'Éternel gardera ton départ. Et il y en a plusieurs qui partent. Eh bien, croyez-le, l'Éternel garde notre départ, mais il gardera aussi notre arrivée. C'est beau la parole, il y a tout. Il gardera ton arrivée. Et puis quand vous serez là-bas, vous direz, oui, mais on a passé tout qu'on avait ici. Il y a un fleuve dont les ruisseaux réjouissent la ville de Dieu. Le Saint-Lieu de la demeure du Très-Haut. Là où vous êtes, il y a la demeure du Très-Haut. Eh bien, là aussi, le fleuve coule. Et il est dit que de ce fleuve, il y a des ruisseaux, comme je vous l'ai rappelé. Eh bien, chacun de vous, vous avez le ruisseau plein d'eau. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Là où vous êtes, abreuvez-vous au ruisseau de Dieu qui est plein d'eau. Et puis, faites l'expérience d'Ézéchiel 47, c'est ma dernière citation. Suivez la parole du Seigneur. Le Seigneur vous dit « avance ». Et c'est toujours en avançant. Ne regardez pas derrière vous. Ni l'homme qui a mis la main à la charrue et qui regarde en arrière n'est propre pour le royaume de Dieu. Vous avez commencé, eh bien, entrez dans le fleuve. Ézéchiel 47 nous dit que quand Ézéchiel est entré dans le fleuve, il avait de l'eau jusqu'aux chevilles des pieds. Et quand on a de l'eau jusqu'aux chevilles des pieds, quand on entre dans le fleuve, il y a un peu des cailloux, on n'a pas une marche très assurée. Et puis, ça blesse peut-être un peu. Vous allez faire certaines expériences, peut-être un peu douloureuses au début. Eh bien, ne vous découragez pas, ne vous retirez pas, ne reculez pas. C'est jamais derrière soi qu'il y a la délivrance. Elle est toujours devant vous. Alors, avancez. Vous avez de l'eau jusqu'au sud des pieds. Avancez. Ézéchiel nous dit qu'il a avancé, qu'il a eu de l'eau jusqu'au genou.
jusqu'aux genoux. Vous connaîtrez la victoire dans la vie de prière. Et puis, vous n'allez pas en rester là. Mais il avance encore, il a de l'eau jusqu'aux reins, le siège de la force. Et le Seigneur vous donnera une force que vous n'avez pas connue autrefois. Il renouvellera votre force comme il renouvelle la force de l'aigle. Et puis, ne vous contentez pas d'avoir de l'eau jusqu'aux reins, allez plus loin, et il est dit, c'était un fleuve où il fallait nager. Eh bien voilà, vous nagerez dans cette grâce de Dieu. C'est le fleuve de la grâce, et cette grâce vous est promise, et je suis en paix à votre égard, parce que je sais que quand on nage, c'est l'eau qui nous porte. Alors laissez-vous porter maintenant par la grâce de Dieu, et que ta bénédiction, Dieu notre Père, ton amour s'y manifeste en Jésus-Christ, ton espérance vivante, renouvelée dans nos cœurs, cette foi toute simple dans les promesses de ta parole nous aide à poursuivre la route et à nous retrouver à l'heure de ta venue sur les nuées du ciel pour entrer avec toi, voir les portails éternels s'ouvrir et nous amener dans la présence de ton Père, pouvant dire, me voici.